Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Bonjour Wendy Delorme.
Bonjour Blandine, bonjour Victoire.
Merci d'être nombreuses et nombreux cet après-midi avec nous. Et merci à toi Wendy d'avoir répondu présente à notre invitation. Nous sommes vraiment très heureuses et très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de ton sixième et dernier roman, Le Chant de la Rivière, qui est ici, et qui est paru aux éditions Cambourakis. Mais pour faire un peu, enfin voilà, pour en guise d'introduction, juste rappeler que de manière générale, tes écrits sont très engagés politiquement, surtout sur les questions féministes. Donc avant toute chose, est-ce que tu veux bien nous dire un peu plus sur ton parcours, sur ce que tu as fait?
Alors, bah déjà, merci d'être là, tout le monde, et merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que j'écris, j'ai commencé avant l'école, en fait. Ma grand-mère, Lucienne, qui n'est plus de ce monde, était institutrice, et elle m'a appris à lire et à écrire avant l'heure de l'école. Elle était fraîchement retraitée quand je suis née, et elle a peaufiné sur moi une méthode d'apprentissage de la lecture qui s'appelle l'écosyllabe et qui était en fait une méthode pour les enfants qui n'arrivaient pas à apprendre à lire avec la méthode globale, parce que pendant sa carrière d'institutrice elle s'est rendue compte qu'il y avait des enfants en échec avec la méthode globale, et quand elle a été fraîchement à la retraite et que je suis née, quand j'ai eu 3 ans, elle s'est mise à m'apprendre à lire et à écrire avec cette méthode qui est publiée chez Fleurus d'ailleurs, ça s'appelle l'imagerie de la lecture. Et donc voilà, donc l'écriture ça vient de là, ça vient de ma grand-mère qui me faisait... qui m'a fait lire Colette, Benoît de Groux. Alors là, Colette, quand j'étais ado, petite, elle me faisait lire les histoires de bêtes. Après, c'est les Claudine à l'école. Colette, tu peux la lire dès l'enfance, en fait. Donc voilà, ça vient de là. Mon parcours d'écriture, il vient de là. Il est ancré dans l'enfance, dans la transmission avec ma grand-mère et dans une méthode alternative à la méthode globale, qui est par ailleurs très bien. Mais bon, c'est un autre rapport à l'écriture qui est avant l'époque scolaire, en fait. Donc c'est resté mon médium privilégié pour m'exprimer, voilà.
Merci. Et du coup, là, on a dit qu'on allait parler un peu plus du Chant de la Rivière. C'est un roman qui est à la fois écologique et féministe, dans lequel tu donnes la parole à la nature. Et en fait, il raconte deux histoires en parallèle qui se passent à deux époques différentes. On a une autrice de nos jours qui vient s'isoler dans une maison en montagne pour trouver l'inspiration, et l'histoire aussi de Clara Emeny dans les années 30, qui est racontée par la rivière, et la rivière qui devient un personnage à part entière de ce récit. Alors pour mieux nous rendre un peu compte de l'histoire et de la façon dont elle est racontée, le mieux ça serait peut-être d'écouter tes mots, si tu veux bien nous en lire un extrait.
Ouais. Donc c'est le premier chapitre, c'est la rivière qui s'exprime. Je suis liquide, je suis mélodie. On m'a presque oubliée, mais j'étais autrefois puissante et indomptée. Je pouvais emporter, grondante, sur mon passage, tout ce qui s'approchait de moi un peu trop près. Et couchée dans mon lit et roulée dans mes pierres, tirée vers les abysses des plaines en contrebas, les âmes inconscientes s'aventurant sans gué dans mes flots bouillonnants. C'était il y a longtemps. La forêt, tout d'abord, s'est refermée sur moi. Après que tout mon flux a été dévié, aspiré par les hommes dans des tuyaux affreux de plastique jaune et noir. On les voit affleurer en haut dans les alpages, traverser ça et là un chemin de randonnée au milieu d'un pré. Les moins attentifs trébuchent parfois dessus, s'étonnant de trouver sur un sentier perdu dans la montagne ce serpent de caoutchouc rutilant au soleil, qui replonge sous terre quelques mètres plus loin. Si on m'entend gronder, on ne me voit plus couler. Nul ne sait où je prends ma source, sauf les quelques-uns qui restent préposés à l'irrigation des prairies en hauteur et m'ont domestiqué. Toujours la faute des hommes. On ne sait plus que j'existe. Seul un mince trait bleu sur les cartes humaines dessinant la région indique ma présence, invisible à l'œil nu. Je suis souterraine depuis des années. En bas de la forêt qui couvre la montagne, en dessous des alpages, je longe la maison. Cette large bâtisse, longtemps inhabitée. Ancienne bergerie dont la rénovation au début de ce siècle a jugulé mes eaux. Je coule au robinet, m'épand dans les chasses d'eau. On m'a ainsi domptée étiolant ma vigueur, salissant ma clarté autrefois cristalline. Mais mes forces anciennes au printemps se ravivent et les tuyaux de cuivre au creux des murs de pierre se disjoignent peu à peu. Goutte à goutte, je ruisselle, je reprends du terrain.
Merci Wendy. Qu'est-ce qui t'a donné envie de donner la parole à l'eau ? Est-ce qu'il y a un choix militant derrière cette envie d'écriture ?
Alors, en fait, c'est pas un choix militant parce que... comment dire ? En fait, c'est pas militant d'écrire sur l'eau, sur l'accélération de son cycle. Enfin, c'est juste la réalité, c'est écrire sur la réalité, quoi. Et en fait, aujourd'hui, on nous dit que c'est militant quand on parle de la réalité. Et en fait, la réalité qui m'a fait écrire ce texte, c'était qu'on était parti en retraite d'écriture avec quatre camarades autrices et auteurs dans une maison à Saint-Vallier-sur-Rhône. Donc, en fait, ce texte, il date de 2 ans avant le moment où je suis à la montagne, dans les alpages franco-italiens. On est à Saint-Vallier-sur-Rhône, que peut-être vous connaissez pour certaines ou certains. C'est une petite ville qui, quand on y est allé il y a 4 ans, il y avait plus de chats errants que de magasins ouverts. Je pense que c'est une petite ville qui a dû, avec la construction de l'autoroute, perdre une partie du trafic qui venait par la gare, en fait, par le train, et qui a dû être un peu écartée. Enfin, je pense que les axes commerciaux, les flux de population, soudain ne passaient plus par Saint-Vallier, donc c'est... Je pense que c'est un des effets de l'autoroute, en fait. Et donc, cette petite ville, à moitié, avec un tiers des commerces qui est fermé, désaffecté, qui est pleine de chats errants, il y avait une maison qu'on a sous-louée à une copine de Lyon. Et puis, on voyait un mince trait bleu sur Google Maps qui traversait le jardin de la maison qui se prolongeait par une colline. Mais on ne voyait pas d'eau. On voyait pas. Et on a commencé à imaginer c'était quoi ce trait bleu ? Est-ce que ça avait été un ruisseau ? Qu'est-ce qui lui était arrivé, est-ce qu'il avait été canalisé, est-ce qu'il coulait dans la maison. Et donc chacune, on a écrit un texte là-dessus. Et ça, ce que je vous ai lu, c'est le premier chapitre d'un texte qui a été poursuivi par mes camarades. En fait, on lisait le chapitre écrit par l'autre, on continuait, on était 5, et ça faisait à chaque fois une histoire avec 5 chapitres. Et ça se terminait avec la rivière qui se vengeait en inondant des vacanciers venus dans la maison. Enfin, c'est devenu un truc de science-fiction. C'est pas du tout le cas de... Et j'ai repris ce texte, en fait. J'ai repris mon texte 2 ans plus tard. Et j'en ai fait autre chose. J'en ai fait ce roman. Mais je suis partie d'un réel concret qui était un cours d'eau qu'on ne voit plus, qui a été buzé, je pense, qui a été...
Et on a l'impression, du coup, dans le roman, qu'il y a un lien entre la rivière qui est domestiquée, empêchée, et les femmes, notamment Clara et Ménie, qui ne peuvent pas vivre leur amour. Donc, est-ce que ce lien, c'est quelque chose que tu avais en tête dès le début, ou pas ?
En fait, il a fallu que, avec le même groupe d'écriture avec qui j'étais à Saint-Vallier, il a fallu qu'on ait 5. Il a fallu que j'aille à la montagne 2 ans plus tard, donc au-dessus de Mantoul, à la frontière franco-italienne, dans un tout petit hameau, pour que me vienne l'histoire de Clara et Ménie, et pour que je me dise « Ah, mais en fait, la rivière... » Et du coup, là, je suis allée exhumer dans mon ordi ce texte, et ça y est, j'avais enfin la suite. En fait, voilà, c'est la rencontre avec un autre ruisseau qui, pour le coup, coulait vraiment près de la maison, c'était un petit torrent de montagne. Mais parfois que tu commences un projet d'écriture ou peu importe un projet artistique, puis des fois il te faut une autre rencontre, une autre histoire pour que ça prenne, quoi. Voilà.
Et tu dis que tu vas écrire du coup dans la montagne. Est-ce qu'il y a une envie de reconnexion, comme là par exemple l'autrice dans le roman, elle se reconnecte en s'isolant dans la montagne, elle se reconnaît petit à petit avec son corps et puis avec son environnement au fur et à mesure de son isolement. Est-ce que ça correspond à une idée de retour, de reconnexion à la nature ?
Alors, ma narratrice dans le roman, quand elle arrive dans ce... Donc, l'histoire se passe dans les alpages franco-italiens. On est à 1400 mètres d'altitude. Et ma narratrice, elle arrive de la grande ville. On ne sait pas de quelle grande ville elle imagine. Ça pourrait être Turin, ça pourrait être Lyon. C'est pas précisé. Et elle dit voilà qu'elle se sent comme si elle avait très très soif et qu'en arrivant dans ce lieu, il y a quelque chose dans son âme qui se désaltère. Ça, c'est typiquement le rapport des citadines, enfin de la citadine éco-anxieuse que je suis, quand elle arrive ailleurs que dans le béton. Et en même temps, je voulais pas non plus fantasmer la campagne ou la nature, parce que je montre aussi comment la montagne a de tout temps été travaillée par l'humain. Elle fait des balades et puis des randos, puis elle se rend compte qu'il y a des vestiges de murs de pierre, que c'était des champs en terrasse à d'autres époques. Se rend compte qu'en fait, bon, maintenant c'est des câbles de télésièges, mais il n'y a plus de neige l'hiver là-bas, donc bref. Du coup, le roman il montre aussi comment cette montagne elle a été travaillée par l'humain au fil des époques et des enjeux économiques locaux, quoi. Voilà.
Du coup, t'en parlais un peu quand tu disais qu'après, vous étiez parti sur un récit de science-fiction où la rivière revenait et forçait les habitants à partir. Et là, dans le roman, dès le début, on sait que la rivière, elle nous dit qu'elle a pris une vie. Dès le début, elle commence en disant ça. Donc c'est une rivière qui est à la fois montrée comme une amie quelque part et aussi une ennemie, parfois. Et la façon dont tu montres les éléments, la nature, il y a vraiment cette dualité. Il y a un côté très, très apaisant, très poétique, et aussi la dureté des éléments, tu le montres aussi. Et on dirait même qu'il y a un peu une envie de montrer que les éléments peuvent se rebeller aussi contre les humains. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça ?
Oui, moi j'aimerais bien que les glaciers alpins ils explosent avant les JO là, d'hiver. Il y a des lacs sous-glaciaires qui se forment dans les glaciers. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, parce que à Saint-Gervais, par exemple, à la fin du 19e, il y a eu je sais plus en quelle année. En fait, il y a de l'eau qui fond sous la glace, puis à un moment donné, ça va faire céder la glace et ça fait des torrents de boue qui. Et bon, c'est lié au réchauffement climatique, mais c'est un phénomène qui a eu lieu dans le passé déjà. Donc moi, je rêve que les éléments se vengent et qu'ils annulent les JO qui vont être une catastrophe pour les Alpes. Bref. Oui, mais ça, c'est ma vision d'humaine qui dit la rivière se venge, mais la rivière, elle a son propre fonctionnement, elle fonctionne pas comme nous. Donc je fais de l'anthropomorphisme quand je lui prête des intentions. Mais j'écris pour des humains, en fait, donc forcément.
Oui, puis justement, par rapport à ce que tu disais, la présence de l'homme, de l'humain, en tout cas, qui est dans cette nature, finalement, là, on a cette nature qui va se rebeller en quelque sorte contre cette présence aussi. Enfin, voilà. Il y a peut-être ce lien aussi qui est fait.
Et puis la rivière, dans ce roman, elle observe la femme qui est venue vivre dans cette ancienne bergerie. Et elle dit elle ne dérange pas grand-chose ici. Elle ne cueille pas de fleurs, elle ne déplace pas des choses, elle n'abîme pas. Elle avait envie de décrire ça aussi. Voilà.
Alors, dans le livre, il y a un passage de façon très subjective que j'ai trouvé magnifique, qui vraiment parle du cycle de l'eau et qui, petit à petit, en parlant du cycle de l'eau, va nous ramener vers Clara et Ménie et vers le lien qu'elles ont elles-mêmes avec la rivière. Est-ce que tu pourrais nous lire cet extrait, s'il te plaît ?
Alors, pour les gens qui n'ont pas lu le roman... Il est construit un petit peu comme un roman policier, enfin un thriller, un tout petit peu. La rivière, au début, elle dit qu'elle a pris une âme, puis on saura qu'à la fin, qui est-ce qu'elle a noyé. Et ça, c'est l'histoire de la rivière. Et il y a eu l'histoire de Clara et Ménie, qui sont deux jeunes filles qui grandissent là, sur ce flanc de montagne, dans les années 1920-1930, et qui sont très liées à ce cours d'eau. Alors, Ménie, elle a un frère qui s'appelle Léo, un frère jumeau. Et Clara, c'est sa meilleure amie quand elle est petite, puis après, elles vont développer des sentiments plus différents. Ménie et Léo, comme Clara, savaient où je prenais ma source. C'est la rivière qui parle. Mes eaux s'écoulaient à travers la roche, depuis un lac, des hauteurs, au-dessus des alpages, alimentées chaque printemps par la fonte des couches de glace du sommet, accumulées au fil des années. L'eau des glaciers y était retenue par des blocs de roche, amenée là par l'effondrement ancien d'un pan de montagne. Puis coulait sous la surface avant de jaillir à travers les fentes des rochers, dévalant les pentes, en formant chutes et cascades, trous d'eau. Je m'étalais çà et là dans ces creux de roches lisses, larges comme des baignoires, où les enfants se baignaient l'été et qui gelaient l'hiver. Sur la pente, avant la forêt, je coulais ensuite à grands flots de torrents. Mais une fois dans les bois de mi-montagne, mon cours devenait large et plus tranquille. La descente y était moins raide, et les éboulis de pierre, les racines des aulnes, les végétaux denses, les mousses et les pommes de pin formaient une couche épaisse me ralentissant. Plus bas, dans le sous-bois, deux ruisseaux serpentaient dont les eaux s'embranchaient en minces cours d'eau. Au bas de la pente raide sous la bergerie, nos trois flux se rejoignaient juste avant le pont qui menait au village, qu'on appelait les Trois Eaux. Ce pont, il va avoir un rôle important plus tard, mais je sème un indice pour la suite. À cet endroit, mon courant grossissait brutalement au printemps, et durant les orages de fin d'été, je devenais un danger. Les enfants avaient l'interdiction de s'y baigner. Ils se disaient qu'un jour, le pont partirait dans mon torrent. On se souvenait l'avoir déjà reconstruit après des crues soudaines. Mes eaux, après le pont et le village, couraient ensuite au creux de la vallée, entourées de champs de seigle, servant l'irrigation, avant de rejoindre le fleuve qui traversait les plaines jusqu'à la grande ville et enfin vers la mer. Personne, hormis les bergers à cette époque-là, ne montait à ma source. Mais Clara et Ménie, filles de la montagne, connaissaient bien le lac. Lorsque c'était Ménie qui descendait des prairies d'alpage de son palais pour retrouver Clara, laissant les bêtes sous la garde de son jumeau et des bergers communaux, elle suivait mon cours parmi les mousses et les pierres, plus bas dans la forêt. La roche friable, aux veines argentées, s'émiettait par endroits, sous la corne de leurs pieds habitués à courir sur les chemins drus, avec ou sans chaussures selon les saisons. Elle remontait par mon lit, connaissant par cœur les larges pierres stables sur lesquelles sauter et les roches les plus lisses et glissantes, celles qu'il fallait éviter. J'ai baigné leurs pieds nus habiles sur mes galets, j'ai rafraîchi leurs joues rouges d'avoir couru. Je gardais au frais les myrtilles et les baies de genièvre qu'elles cueillaient en forêt juste avant les hauteurs, enroulées dans un linge par-dessus une grosse pierre et plongées au fond de mon eau toujours fraîche. Avec les baies, Clara faisait des confitures médicinales que Maria lui avait appris à fabriquer. Maria, c'est sa mère. Parfois, elle poussait jusqu'à la Molia, c'est une ferme abandonnée, en remontant l'envers, par là où la forêt était plus dense, les chevreuils, les martes, les écureuils, les lièvres et les renards plus nombreux, et l'humain un peu plus rare. Il y avait chez les deux filles quelque chose qui toujours les ramenait à moi. Les adultes les appelaient parfois les filles de l'eau, tant elles connaissaient tous mes endroits cachés, les secrets et courants de mes flots dévalant la montagne. Elles savaient construire des semi-barrages avec des roches et des galets, aux endroits les plus calmes de mon flux, pour créer des retenues et de minces rigoles, irriguant ainsi les plants que Clara repiquait dans les bois afin de les multiplier sur ma rive, les cueillant ensuite pour les sécher et en faire des infusions. Elle savait que tel ruisselet, qui s'étendait à l'ouest de la forêt, alimentait le bassin de la Molia. Elles allaient parfois en dégager le lit, s'il était encombré de chutes de pierre qui en affaiblissaient le courant. Le début de cet été-là les a souvent vues à la Molia, cachées dans une des pièces vides de la grande maison ou immergées dans le bassin lorsqu'il faisait trop chaud.
Merci. Alors, quand on t'a contacté, Wendy, on t'a proposé plusieurs thématiques et tu nous as dit que tu travaillais en ce moment justement sur le cycle de l'eau. C'est pour ça que j'avais choisi cet extrait, parce que justement on se rend compte vraiment, enfin tu écris à travers la voix de la rivière, sur vraiment son cycle, comment elle est devenue ce qu'elle est et ce qu'elle va devenir, ce qu'elle fut avant d'être une rivière. Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire sur le cycle de l'eau et qu'est-ce qui t'a amené à ça ?
Ce qui m'a amené à écrire sur l'eau, c'est cette rivière... ou ce ruisselet, ou ce rue enterré à Saint-Vallier, dont je vous ai parlé. Après, c'est ce torrent de montagne qui a inspiré la suite du récit. Et puis après, ça a été l'histoire d'une rivière enterrée à Lyon qui s'appelle la Rize. Il y en a qui connaissent la Rize ? Ouais ? Elle coule encore sur 300 mètres à Vaux-en-Velin. Alors, elle est chargée d'hydrocarbures, de poubelles. Il y a un projet de réhabilitation sur quelques centaines de mètres. En fait, elle courait... Il y a plein de... J'ai passé du temps dans les archives à Villeurbanne pour essayer d'identifier sa source. J'ai parlé avec un hydromorphologue, une géographe, le garde-chasse du Grand Parc de Miry-Beljonnage, avec un ingénieur qui travaille pour le canal. Enfin, en fait, on ne sait pas trop d'où venait la source de la Rize. Il y a plusieurs hypothèses, parce qu'elle a été tellement modifiée par l'humain qu'on ne sait pas si c'est un cours d'eau phréatique qui vient en fait, de la nappe alluviale du Rhône. On ne sait pas si elle venait... des balmes, en fait, j'ai tellement geeké là-dessus que je suis presque en train de me lancer dans un cours de géomorphologie, mais en fait, c'est passionnant. Et on se rend compte que quand on enquête sur une rivière, bon, grosso modo, la Rize, elle a été enterrée au 19e siècle parce que les humains ont fait ce qu'ils ont fait avec les sorcières. Ils l'ont rendu infréquentable. Ils l'ont pollué, ils l'ont sali, ils l'ont souillé. Et puis après, ils ont dit, ah bah t'es infréquentable, tu charries les maladies. Des gens qui ont attrapé le typhus, on va t'enterrer, on va te mettre dans les égouts. Et en fait, du coup, elle venait du nord-est de Lyon et elle se jetait dans le Rhône au niveau de la Guillotière. Et tout le cours lyonnais de la Rize, en fait, les trois quarts de son tracé sont souterrains maintenant. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on parle de la Rize à des Lyonnais, des Lyonnaises, surtout des gens qui ont plus de 60 ans, elle est très vivace, en fait, dans les souvenirs des gens. Elle a fait couler beaucoup d'encre, parce que dans les archives de Villeurbanne, mais aussi de Décines et des autres communes environnantes qu'elle traversait, vous avez énormément d'archives. Elle a un syndicat, et on se rend compte qu'un cours d'eau qui est enterré, qui est condamné, il reste très vivant dans les mémoires humaines. Et il manque aux gens. Enfin, en fait, ça a créé quelque chose, quoi. Ça a créé. On a la même histoire avec un petit fleuve côtier, les Égalades à Marseille. Il y a un collectif qui s'occupe de. On appelle ça un cours d'eau orphelin, quoi. Il n'y a personne qui s'en occupe, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'a. C'est devenu une obsession. et puis après, ça touche à tout, parce que pourquoi on enterre les ruisseaux en ville? Qu'est-ce que ça veut dire de réhabiliter un ruisseau? Est-ce qu'on aura toujours de l'eau à Lyon dans 30 ans? Quelle eau ce sera? Enfin, en fait, ça pose plein de questions. C'est un sujet qui est inépuisable. Une fois qu'on tombe dans ce sujet, on est obligé de continuer à creuser, en fait. Parce que ça touche à tout. Ça touche à nos modes de vie, ça touche à notre modèle de société, ça touche à notre avenir. J'ai trois gamins, donc forcément, ça questionne. Et encore, nous, on est bien lotis. La France, c'est pas pire. Mais le sud du monde, en termes de désertification, ça... Voilà, en Espagne, c'est la catastrophe. Enfin, en fait, bon, tout ça fait que tu t'intéresses à un ruisseau enterré dans ta ville et puis tout d'un coup, tu te retrouves à te poser des questions métaphysiques sur l'avenir de l'être humain, quoi. Enfin, et du monde en général. Et pardon, ce que j'ai pas dit, c'est que la Rize, elle a été enterrée. Pourquoi? Parce qu'elle avait servi avec Lyon, grande ville de l'industrie textile, très polluante, l'industrie textile. Vau-en-Velin, cité ouvrière, où les grands patrons Gillet, la famille Gillet, avait construit ses usines de fabrication de la soie artificielle, qui est fabriquée avec de l'acétone. Il y avait aussi les tanneries, le chanvre qui ont fait se décomposer dans l'eau. Enfin, en fait, toutes les usines et les endroits où on faisait du textile de manière artisanale, ça se déversait dans la Rize. Voilà. Donc, on souille un cours d'eau, puis après on dit, ah, bah, t'es infréquentable, on va te recouvrir.
Alors, moi, je reviens sur le champ de la rivière, du coup, sur le roman. Parce que c'est un roman où il y a avant tout des histoires d'amour, enfin, pour moi. on a celle de l'autrice avec la personne qui partage sa vie, qu'elle va raconter sous forme de lettres tout au long du roman. Et aussi, donc, l'histoire de Clara et Ménie. L'autrice du roman, donc, qui est l'autrice... Pas toi, mais l'autrice dans le roman, voilà. Elle est en train d'essayer d'écrire, d'ailleurs, une histoire d'amour quand elle va se mettre quand elle va habiter dans la bergerie pour quelque temps, et elle n'y arrive pas. Et quand elle est toute à cette réflexion sur pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas, elle a une très belle phrase. Elle dit « Je voudrais dire l'amour comme posture radicale en période de crise, globale, planétaire. L'amour comme bouclier, l'amour comme espérance. » Comme une force de révolte. L'amour qui s'élèverait comme un grand cri de joie, de résistance aussi. Donc, Le Chant de la Rivière, c'est un roman qui mêle écologie, intime et politique. Et comme l'est aussi le roman Viendra le temps du feu, donc qui est un roman que tu avais écrit précédemment et qui, par plusieurs aspects, fait écho au Chant de la Rivière. Ces deux romans qui sont parus dans la même collection, la collection Sorcière aux éditions Cambourakis, une collection qui a une identité très forte, du coup. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton rapport avec cette collection et le fait que tes deux romans soient dans cette collection-là, les deux derniers?
Y a d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez mis plusieurs livres de cette collection sur table. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce que fait mon éditrice. En fait, j'étais une lectrice de la collection avant de lui proposer Viendra le temps du feu, parce que je voulais changer d'éditeur. Je sentais que mon lectorat n'était pas chez l'éditeur que j'avais avant. Et du coup, quand j'ai écrit Viendra le temps du feu, que j'ai terminé d'écrire juste avant le premier confinement, on était quoi, en 2020 Ouais, 2021, 2020
2020,
ouais. Je lui ai envoyé mon texte en lui disant, chère Isabelle, voilà, on se connaissait pas, et je lui dis, voilà, en fait, je sais que vous faites pas de littérature, c'est une collection, il y avait des essais. Mais j'ai le sentiment que votre lectorat, c'est suite ce roman. Enfin, et je me disais, c'est pas grave, je l'ai écrit pour 200 personnes, mais elles sont là, ces 200 personnes. Je me disais, en fait, ce livre, j'ai mis 3 ans à le faire, j'ai mis ma dépression dedans, j'ai tout mis. Et je me disais, c'est pas grave, c'est à que... Puis il est un peu sombre quand même, même si ça se termine comment dire, de grandes flammes et une forme d'espoir derrière. Je mini-spoil pour les gens qui l'ont pas lu. Il se termine, les gens, quand ils le prennent, je leur dis, bon, ça se termine sur de l'espoir quand même. Et donc, oui, dans ma tête, je l'avais écrit pour 200 personnes, et les 200 personnes, elles étaient... c'était le lectorat de cette collection. Et en fait, il a parlé à beaucoup plus qu'à 200 personnes. Donc, comme quoi, en fait, moi, ça m'a appris une chose, c'est qu'il faut pas écrire pour un public en particulier. Il faut juste écrire ce qu'on a à écrire, et après, il faut trouver le bon endroit. Parce que des fois, je découvre des textes incroyables, mais ils sont pas au bon endroit. C'est-à-dire que l'éditeur qui le publie, il n'a pas forcément le lectorat qui va. C'est comme un peu une maison d'accueil, un livre. Faut le mettre au bon endroit, voilà. Et je sais que je suis au bon endroit avec Isabelle Cambourakis. C'est quelqu'un dont j'aime les valeurs, dont j'aime les goûts, le travail littéraire,
qui nous permet de lire ces merveilleux livres. Donc merci. on a choisi un dernier extrait aussi avec toi. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît, avant que je te pose une question ?
Alors, c'est à la fin du livre. Et là, les extraits que je vous ai lus, c'était La rivière qui parlait.
Oui.
Et ça, c'est La femme qui parle. Donc, parce qu'en fait, la narration, elle est alternée. C'est un coup la rivière, un coup la femme. Tout l'enjeu, enfin, un des enjeux, c'est de, est-ce que la femme va arriver à entendre l'histoire que la rivière a à lui raconter ? Donc, l'histoire de Clara Emeny. Et la femme, elle écrit une lettre, une très longue lettre. Donc, chacun de ses chapitres, c'est une longue lettre à la personne qu'elle aime. Et on est vers la fin, et elle vient de découvrir l'histoire de Clara Emeny, donc l'histoire de deux jeunes filles qui s'aimaient un siècle plus tôt, dans ce lieu. Et ça lui donne à réfléchir sur la relation qu'elle vit avec la personne qu'elle aime. Elle écrit à la personne qu'elle aime. Nous avons cette chance inouïe, toi et moi, de pouvoir nous aimer, de pouvoir vivre ensemble. Dans d'autres temps, ou même d'autres lieux à notre époque, je ne pourrais pas t'appeler mon amour. Notre histoire aurait été cachée, tu n'aurais pu être qui tu es. Nous aurions vécu une vie que nous n'aurions pas choisie. Peut-être même, ne nous aurait-on pas laissé vivre. Même si tes parents t'ont fermé leurs portes et ont coupé tout lien, même si ça fait mal, même si la violence est toujours à deux pas des vies qui ne tracent pas de chemin rectiligne, nous pouvons exister, et même envisager d'élever un enfant. Jusqu'à quand, cependant ? Ce pays à l'est de la vallée vient de voter une loi empêchant les couples de femmes d'avoir toutes les deux le statut de parents, même si elles sont mariées. Là, je parle de l'Italie, on est l'été 2023. Je crains l'abrogation de l'union civile pour les couples de même sexe, union pour laquelle nous avons bravé les croisades de conservateurs et de fascistes, avons manifesté durant des années et gagné de hautes luttes. Je tremble en y pensant. Si tu n'avais pas changé d'état civil, nous ne pourrions envisager de former une famille. Et je m'inquiète du sort des personnes de ton peuple, celles et ceux qui ont traversé les frontières du genre que la morale cadenasse, les tranchées de la binarité qui séparent les deux classes que sont l'homme et la femme, telles que les conçoivent ceux qui attisent la haine. La haine qui gronde partout, contre celles et ceux qu'on appelle déviants ou contre les étrangers, même s'ils sont nés ici, même s'ils fuient un pays en guerre, les bombes et la famine. Toutes les vies excentrées, apatrides, celles qui sont sorties des scripts préécrits ou ont quitté leur pays de gré ou bien de force, entendent gronder le son des slogans d'extrême droite qui assènent la vision d'un monde terrifiant.
Merci Wendy. Alors si on a choisi ce passage, c'est justement pour parler de cette thématique. Donc dans le champ de la rivière, On sent qu'il y a aussi l'envie de parler du recul du droit des personnes de la communauté LGBT, et même au sens large des libertés individuelles en général. La menace du fascisme est imminente. C'est une thématique qui est déjà centrale aussi dans Viendra le temps du feu. Mais, malgré tout, le champ de la rivière paraît plus optimiste. Est-ce qu'il y a une évolution de ton état d'esprit par rapport à ces sujets-là ? Pas du tout, parce que, mine de rien, on a l'impression que ça s'aggrave.
j'ai terminé de l'écrire l'été 2023. C'est le moment où l'Italie vote l'abrogation du droit parental des mères lesbiennes qui n'ont pas porté leur enfant. C'est-à-dire que si moi j'étais italienne, là, il y a deux de mes enfants dont je ne serais plus la mère. Parce que je les ai adoptés. C'est mon ex qui les a portés. Donc je suis leur mère par adoption. Voilà. Adoption de l'enfant de la conjointe. C'est le statut juridique que j'ai, en fait. Alors c'est en Italie, c'est pas en France. Quand on en parle, ça semble assez abstrait, mais c'est quand même. Ça a des conséquences très très concrètes dans la vie des familles concernées. Donc il se passe ça au moment où j'écris. Et puis j'étais loin d'imaginer que, exactement un an plus tard, notre président allait dissoudre l'Assemblée nationale et qu'on allait se retrouver à voter en masse pour empêcher l'extrême droite d'arriver au gouvernement, qu'il ferait fi de nos votes, qu'on aurait un gouvernement très largement manif pour tous. Bon, tout ça, quoi. Et le roman lui-même, il est... L'histoire, elle se passe beaucoup en 1920-1930. Donc, et on est beaucoup sur la naissance d'un amour entre deux jeunes filles. Donc c'est pour ça qu'il a sans doute une tonalité plus douce et plus porteuse d'espoir que le précédent livre.
Et dans Viendra le temps du feu, je ne sais pas si c'est dit clairement, mais en tout cas, quand on le lit, on a l'impression d'être dans une dystopie, ce qui est habituellement le genre qui est utilisé plutôt pour dénoncer ou alerter une forme de science-fiction. Et donc là, le champ de la rivière, c'est un autre genre, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir ces deux genres différents et quel est ton rapport au genre littéraire ?
En fait, chaque projet, il est différent. Et je trouve qu'écrire des livres, c'est un artisanat. En fait, tu as des outils, tu vas travailler de la matière langagière, mais chaque livre a sa raison. C'est comme de concevoir un meuble ou une sculpture. Tu vas travailler la matière différemment, et puis tu vas suivre les veines du bois, Par contre, ils ont des choses en commun, c'est-à-dire une narration alternée. Dans Viendra le temps du feu, on a 5 ou 6 narrateurs-narratrices. Là, on n'en a que 2, mais c'est quand même une narration alternée. Il y a aussi une rythmique en alexandrin dans les deux. Donc, il y a beaucoup de phrases qui ont 6 ou 12 pieds. Ça fait une rythmique quand on lit à l'oral. Mais là, le livre que je suis en train d'écrire, que j'ai pour l'instant intitulé Le Parlement de l'eau, les narrateurs, les narratrices sont des fleuves, des lacs, des rivières. Il y a la mer aussi. Et en fait, pour le coup, là, je suis plus dans un dialogue et c'est caustique. C'est un ton. Mais parce que j'avais besoin d'être un peu plus rentre-dedans, un peu plus. Et le dialogue s'y prête bien. Voilà. Donc ça dépend. Et puis mes premiers romans, c'est de l'autofiction. Donc c'est une voix intérieure d'une fille de 25 ans, 26 ans qui parle et qui raconte sa vie. En fait, chaque roman est différent parce que. J'arriverai pas à écrire 2 fois le même livre, en fait, c'est pas le but, quoi. Et j'aime bien me lancer des défis. Le prochain, j'ai un roman dans le roman dans le roman, donc j'ai 3 couches narratives. J'ai des entités aquatiques qui s'expriment, qui débattent entre elles, de est-ce que la littérature peut quelque chose contre les méga-bassines. Il y a le cerveau humain, l'esprit humain qui les a convoqués, c'est mon avatar, c'est moi. Qui fait un peu un récit auto-fictionnel de sa vie de citadine éco-anxieuse. Et puis, elle demande aux entités d'écrire un roman qui se passera en 2050 à Lyon et qui parlerait de la situation de l'eau dans une métropole. Donc, on a 3... Voilà. Et en fait, moi, j'aime bien ça, parce que je trouve que c'est... Quand on commence à maîtriser ces outils Je me dis, bon, allez, vas-y, je vais jongler avec 3 balles. Je sais pas comment faire, mais je vais apprendre en le faisant. J'aime bien. C'est... Faut qu'il y ait de la joie aussi dans la création, et la joie, elle vient aussi avec un petit peu de difficultés techniques qu'il faut résoudre.
Mais je comprends pourquoi tu voulais nous parler du cycle de l'eau. Du coup, tu as vraiment ce côté obsessionnel en ce moment. C'est génial. Et d'ailleurs, pour revenir à la question de l'eau, moi, j'ai trouvé que dans Viendra le temps du feu, l'eau, elle est aussi très présente, puisque en fait, le fleuve marque vraiment une frontière presque infranchissable. C'est un obstacle à traverser pour rejoindre la résistance. Et surtout, il y a une scène, moi, qui m'a bouleversée. Ne mâchons pas nouveau. C'est l'océan qui devient un océan, un horizon des possibles pour Raphaël, puisqu'un des personnages, c'est Raphaël qui écrit une longue lettre à sa mère, puisqu'il veut déserter et que les hommes ont le choix de le faire, contrairement aux femmes. Et, enfin, c'est pas ça exactement.
Non,
ça.
Enfin, s'ils si désertent, ils peuvent pas revenir sur le territoire.
Oui, ils peuvent pas revenir.
Ils s'exilent pour toujours.
Ils s'exilent, voilà. Mais il fait ce choix-là et il écrit cette longue lettre. Enfin, en tout cas, il parle à travers cette longue lettre et il raconte des souvenirs quand il est parti en vacances, quand il a eu l'autorisation, enfin, quand c'est la maman de Raphaël a eu l'autorisation d'emmener ses fils en vacances voir la mer et qui finalement a un peu hésité presque à aller les amener parce qu'elle s'est dit. Et, enfin voilà, il parle de cette inquiétude. Alors je crois que j'avais noté. Il parle de cette inquiétude qu'il voit sur le visage de sa mère. Et à partir de là, il dit : je n'ai jamais cessé de chercher un ailleurs depuis qu'il a vu cet océan. Je n'ai jamais cessé de chercher un ailleurs, de repousser un peu les limites du licite, saboter en silence les cadenas des grilles qui clôturent nos vies. Et là, l'horizon par l'océan. Devient un imaginaire émancipateur. Et est-ce que tu crois, du coup, en la puissance de l'imaginaire comme vecteur de lutte et de fabrique d'utopie ?
Je crois que chacun, chacune, à notre endroit, si on est animé... soit on peut se laisser écraser et couler dans la dépression, au vu de l'état du monde, soit on fait avec nos outils à disposition, chacun, chacune. Donc ça peut être... des actions du quotidien sur nos modes de vie, ça peut prendre des formes d'activisme. Il y a plein de formes possibles en fait. L'écriture est un outil. Moi, c'est ce qui me fait une colonne vertébrale et ce qui me donne un but. Parce que je crois que si j'étais pas en train d'écrire le Parlement de l'eau en ce moment, je pense que je serais en dépression. Voilà. Mais ça me donne un horizon, ça me donne... je peux y mettre de la rage, je peux y mettre... Dans ce que j'écris en ce moment, Océan, il est au bout du rouleau. c'est une des entités, donc il a les chalutiers qui raclent ses fonds, ses eaux deviennent acides, il peut plus... Mais, enfin, voilà, il est vraiment... J'en ai fait un personnage... il est vraiment au bout c'est un patriarche qui est au bout du rouleau, quoi. Il a été tellement... exploiter. Donc voilà, voilà, l'écriture ou la lecture ou en tout cas faire quelque chose dans son quotidien qui donne un horizon, ça aide, je trouve.
Question subsidiaire, dans le Parlement de l'eau, il y aura vraiment les glaciers qui se battent contre les JO ?
Non, pour l'instant, ils sont une extinction de voix. donc ils sont pas représentés, enfin ils ont pas pu venir, c'est siégé. Mais en fait c'est parce que j'écoutais hier une émission de radio qui parlait de ces lacs sous glaciaires. Elle date de jeudi là, est-ce que c'est la Terre au carré, je sais plus quelle émission c'est. Et je me suis dit et j'ai envoyé ça à un copain qui écrit justement sur les glaciers en ce moment et on parlait des JO et des Alpes et de la catastrophe que ça allait être. Et puis du scandale que c'est, parce qu'on a un gouvernement qui dit, en fait, les malades, les retraités, vous allez vous serrer la ceinture parce qu'il faut faire un effort budgétaire, mais par contre, on va mettre plein de millions d'euros sur les JO qui vont dévaster les Alpes. Enfin, c'est un délire, quoi. Et je dis, mais les glaciers vont se venger, ils vont exploser sur les travaux. Mais bon, ils vont exploser sur les canons à neige, je sais pas, il va se passer un truc.
Merci beaucoup, Andy. Si vous le souhaitez, on peut faire tourner un micro dans la salle. C'est le moment ou jamais de poser toutes les questions que vous voulez à Wendy Delorme. Vous avez 30 minutes. N'ayez pas peur.
Moi, ça m'intéresse, par exemple, de savoir ce qui se passe ici. C'est quoi les mobilisations locales? Voilà, qu'est-ce qui vous anime, vous aussi, quoi? Qu'est-ce que vous aimez lire en ce moment? Je sais pas.
Alors, pour rebondir avant que quelqu'un prenne la parole facilement, sur l'eau, le week-end dernier, où il y a deux week-ends de ça, il y a eu un super festival qui s'appelait Force Motrice, où Radio Royaume Vercors était aussi présent et qui a été mené probablement par des personnes qui sont aussi dans cette salle et qui parlaient justement de l'eau et dans le Royaume Vercors. Et il n'y avait que des trucs trop bien.
J'ai vu passer le programme, ça avait l'air vraiment super. Et je ne pouvais pas venir, j'étais dégoûtée.
On a vu plein de traces de castor.
Bonjour, Frédéric, j'habite à Albertville. Donc j'avais une petite question, et puis après je vais parler un tout petit peu du Lyon-Turin, puisque tu nous as invité à dire les luttes locales. Bon, c'est pas local, mais c'est quand même pas loin. Et puis il y a beaucoup de problématiques liées à l'eau. Donc il y a une rivière en particulier qui coule à Maurienne, c'est l'Arc. Et là, on a une idée, c'est de se dire, on va essayer de donner une personnalité juridique à l'Arc. Alors c'est pas très original, ça a déjà été fait, etc. Mais en fait, c'est un truc qui date de la semaine dernière. Donc, toutes les personnes, toi, si tu t'es un peu trempé là-dedans ou tu as déjà des idées ou des contacts, je serais assez preneur de voir comment on peut s'y prendre pour faire ça. Voilà, pour cet aspect juridique. Ensuite, sur le Lyon-Turin, en fait, il se passe énormément de choses. Et j'en parlais un petit peu tout à l'heure en off, là. En 2020, il y a eu des... une enquête des arrêtés sur une enquête d'utilité publique qui a interdit aux promoteurs de continuer à creuser le tunnel de base donc, qui est entre Suse en Italie et Saint-Jean-de-Maurienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vingtaine de captages d'eau potable sur le tracé. Donc très bien. Voilà. Bon, ils continuent par ailleurs d'autres chantiers hein, parce que le principe sur ce chantier, c'est d'occuper le terrain pour essayer de prouver l'irréversibilité du projet. Enfin, toujours est-il que sur ça, au mois de mai, le préfet de Savoie a diligenté une enquête avec un commissaire enquêteur, ancien fonctionnaire du département. C'est juste pour parler un petit peu des conflits d'intérêts. Donc c'est appel public, etc. On a fait une centaine de contributions qui expliquaient pourquoi il ne fallait pas faire ça. Et l'objectif, c'était de modifier le périmètre de protection de ces captages. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, donc là, c'est passé. Donc ils étaient hors la loi parce qu'ils creusaient dans le périmètre. Ils ont réduit le périmètre. Donc maintenant, ils sont dans le cadre de la loi. Donc voilà un exemple de magouille, on va dire, hein, d'accord. Donc ça, c'est un premier truc, et la deuxième, donc c'est bien la terre au carré, hein, puisque j'ai entendu l'émission, ouais. Et en fait, je repense à ça, parce que nous, dans le Beaufortin, on a aussi un auteur, dont j'ai oublié le nom, qui a écrit « Son odeur après la pluie », c'est son chien qui est mort, j'ai oublié son nom, désolé, Cédric quelque chose, je crois, qui est passé aussi à la terre au carré un jour, et qui disait justement, cet été, il s'est passé des choses, c'est qu'il y a un barrage qui a bougé, en Maurienne, un barrage hydroélectrique. Pourquoi il a bougé? Alors ça, on le sait grâce à un lanceur d'alerte d'EDF. En 2019, lors du creusement du tunnel, c'est un massif karstique dans Maurienne, donc il y a des grosses poches d'eau. Une poche d'eau à des millions de mètres cubes hein, s'est vidée, et donc a réussi à faire bouger le barrage de 6 cm. Ce qui est exceptionnel, parce qu'un barrage, ça bouge, mais de quelques millimètres par an. Hein. Et donc, il a entendu parler de ça, et ce qu'il a dit dans cette émission-là, c'est en fait la montagne se réveille et la montagne se venge. Et il y a eu un éboulement pareil l'été dernier, enfin en 2023. Et en fait, cet éboulement, il est pile en face d'un puits que fait aussi le concessionnaire qu'ils ont creusé à l'explosif. Donc c'est chaque côté de l'autoroute, c'est à 500 mètres de distance à vol d'oiseau. Mais en fait, la montagne communique un peu. Enfin, il y a des vibrations qui se passent avec ce genre de creusement. C'est des millions de tonnes qui sont excavées, donc forcément, ça a un impact. Donc la montagne se réveille et c'est peut-être notre meilleur allié pour empêcher de continuer. Bon, ce sera dur. Voilà ce que je voulais dire.
Bah, merci beaucoup. Par rapport à ta première question, alors sur le statut juridique des cours d'eau, je crois pas qu'en France, ce soit déjà acté. Il y avait l'initiative du Parlement de Loire, mais qui a donné lieu à un ouvrage collectif coordonné par Camille de Toledo. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, la Loire ait un statut juridique, mais il y avait des juristes impliqués dans cette réflexion. J'ai rencontré au festival Agir pour le vivant à Arles une juriste qui s'appelle Marine Calmet, C-A-L-M-E-T, qui travaille pour l'association Wild Legal, donc wild comme sauvage et legal comme légal. Et je pense que... Alors, elle a écrit des ouvrages, Marine Calmet, et je pense que peut-être c'est une des juristes en France qui serait capable de répondre à ça. Et il y a un autre avocat juriste, Sébastien Mabile, M-A-B-I-L-E, qui lui est à Arles, il est basé à Arles, qui est notamment investi dans l'affaire du siècle. Donc il y a quelques avocats, avocates, juristes en France qui travaillent sur ces questions-là. Ce n'est pas mon domaine, mais voilà, si tu veux aller regarder les travaux de Marine Calmet, ou, j'imagine qu'on peut la contacter en ligne aussi. Et sur le creusement du tunnel, il y a aussi de l'amiante dans cette montagne. Je crois que ça faisait partie des raisons pour lesquelles, justement, creuser le tunnel n'était pas une super idée.
Oui, il y a un petit peu d'amiante et de matière radioactive, mais ce n'est pas le problème principal. Okay. Ce n'est pas le problème principal, ça. Alors, on sait, techniquement, je ne suis pas technosolutionniste, mais on saurait un petit peu mieux maîtriser ça. C'est un des critères. Hein. Il y a plein d'enjeux, de toute façon, autour de ce projet, parce qu'il y a aussi l'artificialisation des terres. Là, il y a des PFAS aussi en Italie. Parce qu'ils utilisent ça sur leurs engins. Donc, bon, il y a tellement de problèmes, on est obligé de les hiérarchiser. Et le plus gros problème, en fait, c'est surtout le drainage de millions de mètres cubes. Quand on creuse un tunnel, c'est l'eau ruisselle et part à la rivière, quoi. Et c'est de l'eau perdue, en fait. Parce que la montagne se vide, littéralement, comme une baignoire. Alors, pas en deux jours, évidemment, mais c'est ça le principal problème. Parce que ça, c'est irréversible.
Bonjour. Pour rejoindre ce que disait Blandine et pour ta question sur les luttes locales, on a eu aussi récemment, avec la FAUP d'ailleurs, une lutte contre, on va dire, le tourisme motorisé dans le Vercors, où on avait pas mal de projets de construire des belvédères, des ponts suspendus au-dessus du vide dans les gorges de la Bourne, etc. Enfin, bon, je vais pas revenir là-dessus. Et du coup, moi, j'avais une question plus sur ton rapport à la nature. Tu dis que tu es une citadine éco-anxieuse, mais j'ai trouvé que justement dans ce livre dont on parle, tu avais un. Enfin, on voit qu'il y a de la connaissance que tu as dû arpenter la montagne. Voilà, c'était un peu ma question.
Oui, alors en fait, le passage que j'ai lu qui se passe dans la montagne où je raconte les deux jeunes filles, comment est-ce qu'elles connaissent la rivière depuis sa source. Mais pour écrire des passages comme ça, je me suis énormément documentée. Parce que je ne voulais pas faire du folklorisme. En fait, je ne voulais pas idéaliser une époque, parce que ça se passe en 1920-1930, je ne voulais pas idéaliser une époque, je ne voulais pas idéaliser des modes de vie, je ne voulais pas idéaliser un territoire, le romanticiser. Et aussi, donc il y a eu deux choses. D'une part, je me suis beaucoup documentée. Notamment, j'ai lu des textes de scientifiques sur les cultures. En moyenne, enfin, à 1400 mètres d'altitude, qu'est-ce qui pousse? Le blé, le seigle, l'orge, qu'est-ce qu'on a comme troupeau, enfin, dans cette région-là. J'ai lu aussi des auteurs qui ont écrit sur la montagne, des auteurs italiens, notamment Paolo Cognetti, qui lui écrit dans le Val d'Aoste. Alors, c'est pas la même région, mais il y a quand même des choses en commun. Et puis, je me suis appuyée sur des personnes, notamment, à la fin du roman, il y a tout un échange épistolaire avec Delio, qui est un local, c'est un monsieur qui a 76 ans, avec qui j'ai été mise en contact par la dame qui nous avait loué la maison. Et je lui ai dit, en fait, j'ai pas envie de faire du folklorisme, j'aimerais vraiment échanger avec quelqu'un du coin. Et je lui demandais si mon histoire était crédible, et il me disait, l'histoire de Maria, la mère de Clara, par exemple, il me dit, ça ressemble beaucoup à l'histoire de ma mère. Et je lui disais, mais est-ce que c'est possible pour une veuve de survivre dans les années 1920 sans se remarier, d'avoir un troupeau de 50 têtes, de 50 brebis, de s'en sortir, en vivant au-dessus du village, à 1400 mètres? Il me disait... Oui, mais rajoute-lui un mulet, un chien et une pension de veuve de guerre. En fait, c'était vraiment des trucs ultra concrets. Donc, en fait, pour moi, écrire sur ce qu'on appelle la nature, qui est une sorte de construction aussi, c'est déjà, enfin, pas être dans le fantasme, se documenter un max. Et j'ai aussi mêlé pas mal de mes souvenirs à moi, parce que j'ai quand même grand. Alors, mon rapport à la nature, c'est. Je suis née dans le 91, donc dans le béton. À Juvisy. Mais par contre, j'ai grandi en Haute-Savoie. J'ai grandi à Annecy-le-Vieux. Et moi, mon adolescence, c'était Je sors du collège, je pose mon sac et je vais marcher dans le Mont-Verrier, dans le Parmelan. Enfin, je fais le tour du lac à vélo. Enfin, j'ai vraiment eu ce truc de... Je pose, je prends une gourde et je vais marcher, quoi. J'ai toujours fait ça. Je suis très malheureuse à Lyon. Mais du coup, pour aimer mon lieu de vie, j'écris ce texte qui parle des cours d'eau et de l'hydrographie dans la banlieue lyonnaise. En fait, en amont de Lyon, là où il y a le grand parc de Miribel-Jeunage, avant, le Rhône, il avait 1000 bras. C'était vraiment... Et il a été canalisé. Il y a eu le canal de Miribel, après le canal de Jeunage, à la fin du 19e. La première très grosse usine hydroélectrique de France, elle est là-bas, à Cusset. Et donc, en fait, de se documenter sur ce territoire, d'écrire sur ce territoire qui est très bétonné maintenant, puis même le grand parc, en fait, il est ceinturé par l'autoroute A42, le périph, la partie de Bouvenvelin qui est très, très bétonnée. Donc, c'est très particulier, parce que c'est un parc naturel, mais il est complètement anthropisé. Enfin... Il y a des conflits d'usage entre le castor et les hydrauliciens du canal. Enfin, mais en fait, d'écrire sur ce territoire périurbain, d'apprendre son histoire, d'imaginer ce qu'il y avait avant, ça aide à l'aimer, en fait. Donc, en fait, je suis dans une phase de ma vie où j'apprends à aimer ce territoire-là, même si c'est pas celui où j'ai grandi et que j'y suis coincée encore pour question de travail et de famille pour au moins 15 ans. Voilà. Mais ça fait du bien d'être ici et d'être allée marcher tout à l'heure, par exemple.
T'as fait plusieurs fois le parallèle tout à l'heure entre les eaux souillées et les sorcières. Et bah, je sais pas, comment tu mets en parallèle, comment tu mets ça en parallèle.
En gros, ce qui se passe, c'est que les sorcières, elles vont être condamnées au terme d'un procès, durant lequel on aura démontré qu'elles étaient souillées par le démon, infréquentables, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la Rize. C'est-à-dire que les humains ont déclaré qu'elle était infréquentable, on lui a fait un procès, il y a eu une délibération au conseil municipal de Lyon, et ils ont dit non, mais en fait, il faut l'enterrer, il faut l'abuser, il faut la mettre dans les égouts. Donc pour moi, j'ai vraiment fait ce parallèle, mais c'est eux qui l'ont rendue infréquentable. Enfin, c'est les mêmes humains. Il y a eu un architecte, Christophe Crépet, qui, au cours du 19e, a voulu la sauver. Il a dit, en fait, il faudrait... comme, en fait, elle n'avait pas une grande déclivité, elle coulait très doucement. Donc ça c'est propice à l'envasement, c'est propice aussi au... Quand tu jettes des déchets en amont, bah, ça part pas, quoi. Et lui, son projet, il n'a pas eu de suite, parce que les différentes communes n'ont pas réussi à s'organiser entre elles pour sauver le cours d'eau. Et donc les humains, ils ont pollué la rivière, ils l'ont chargée d'immondices. Après, ils ont dit « Ah, elle transporte le typhus, les gens tombent malades à cause d'elle, elle est infréquentable. Eh bien, on va se réunir pour décider qu'on va l'enterrer. » Pour moi, c'est un peu la même chose qu'avec les sorcières, en fait. On décide qu'elles sont infréquentables, et on va décider de les noyer ou de les brûler, et ce sera un acte d'intérêt général. Tu vois ? Bon, peut-être mon parallèle est tiré par les cheveux, mais mon paragraphe était bien écrit.
Non, mais parce que ça me fait penser à plein de parallèles écoféminisme qui théorise le fait que la femme, dans nos sociétés, est traitée comme la nature et exploitée, maltraitée, en fait. Du coup, ça m'évoque plein de choses, et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Mais...
Voilà. Oui, t'as peut-être lu ce bouquin de Jeanne Burgard-Goutal qui s'appelle Écoféminisme, où elle explique pourquoi notamment l'écoféminisme a eu du mal à s'implanter en France. Parce qu'en fait, il y avait ce lien très fort entre exploiter la terre, exploiter les femmes, et que le lien parallèle était un peu trop fort entre la femme et la nature. Et tout le mouvement féministe français, après Simone de Beauvoir, a essayé d'extraire la femme de son destin de nature. Parce que la femme était tout le temps associée à la nature, l'idée que la biologie n'est pas une destinée, enfin, de désessentialiser l'identité sociale féminine et tout ça. Mais je pense que maintenant, on arrive à penser l'exploitation des corps et l'exploitation des sols sans faire des parallèles essentialistes, en fait. Enfin, je parle des sols, mais de l'air, de l'eau, enfin, tout ça. Il y a un bouquin, Diane Catton, je crois, Les Semeuses. Ça vous dit quelque chose ? C'est un gros pavé, c'est un très beau roman, Les Semeuses, Diane Catton, on est d'accord ?
Je vois lequel, oui, qui est sorti il y a pas longtemps.
C'est sorti il y a quelques mois.
Chez Rue de
l'Échiquier. Catton, Diane Catton. Ça parle des natives américaines, enfin des indiennes américaines, les natives, les peuples natifs, de ce qui s'est passé avec la colonisation et l'appropriation des sols par les colons, ce qui est devenu les États-Unis, et du fait qu'en fait, des femmes ont sauvé des semences anciennes, des semences rustiques. Et donc, c'est l'histoire d'une femme au XXIe siècle qui essaye de sauver des semences rustiques qu'elle a héritées, qui se sont transmises de génération en génération, et sa grand-mère qui cultive des plants de maïs rustiques dans des petites serres dans son salon, dans son HLM, l'équivalent du HLM où elle habite, l'équivalent des HLM aux États-Unis, quoi. Et ça, je trouve que ça explique bien en fait le lien entre la terre, conserver les semences, les traditions des femmes, sans être trop essentialiste dans son approche.
Mais en parlant de l'exploitation des corps et l'exploitation des ressources, enfin de l'eau, etc., je pense que c'est ça, enfin, quand on parlait de la domestication de l'eau dans le premier chapitre, elle dit bah voilà, l'homme m'a domestiqué, etc. Je pense, enfin, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais vraiment, enfin, en tout cas, Victoire et moi, on a pensé, ah, mais il y a vraiment ce parallèle avec l'exploitation des corps féminins, etc. Enfin, voilà, il y avait ça, et ça peut être aussi par le colonialisme. Voilà, enfin, c'est ça qu'on avait ressenti dans le texte.
Oui, puis c'est lié avec l'exploitation animale aussi. Dans Devenir lionne, qui est un de mes précédents livres, je fais un parallèle entre l'exploitation animale, enfin entre la domestication animale, pardon, et la domestication des femmes, qui historiquement est liée avec à la naissance du capitalisme et du droit et de la fin du nomadisme chez les humains. Donc voilà, tout est lié en fait. Tu tires une ficelle, il y a tout qui vient, quoi. Je ne sais pas si on est recueilli ou atterré. Ou fatigué.
C'est juste une réflexion par rapport à la Rize, par rapport à la rivière de Saint-Vallier, mais aussi à la Maurienne. Cette tendance humaine, en fait, à jouer les apprentis sorciers à exploiter, à abîmer et ensuite à déplorer que ça lui retombe dessus. Voilà, c'était. Et j'ai l'impression que du coup, votre propos, c'est justement de raconter et de mettre en exergue en fait cette réalité.
Oui, puis là, dans ce que j'ai entrepris, qui est de faire parler les cours d'eau et les étendues d'eau. En anglais, il y a cette très belle expression de body of water, corps d'eau, qui désigne aussi bien les cours d'eau que les étendues d'eau. En France, on n'a pas cette expression. On dit soit cours d'eau, soit étendue d'eau, mais où, voilà. Et en fait, de les faire parler, ça me permet aussi les humains se font engueuler en fait, quoi. Donc je trouve qu'aussi par l'humour et par la satire et l'autodérision, on arrive aussi à contrer un peu une forme de désespoir qui peut nous gagner vite quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, vraiment.
Oui, sur la question juste avant, j'ai lu un texte intéressant il n'y a pas longtemps qui s'appelle Hydroféminisme, justement, et alors je ne me rappelle plus du nom de la chercheuse, je crois que c'est une chercheuse australienne, elle s'appelle Astrid Nemesis ou quelque chose comme ça, et justement c'était vraiment pile cette question de comment en fait les questions en fait un peu des éléments elles ont été laissées en fait très fort, ils ont été mis dans les cases du féminisme essentialiste, et en fait elle reprend la question en disant en fait ça pourrait être, en fait c'est aussi une question très matérialiste, notamment comment en fait tout ce qui est charrié par l'eau, toutes les questions de pollution, les questions d'aussi qu'est-ce qui traverse nos corps, comment les flux de nos corps sont chargés aussi de polluants, de d'antidépresseurs, de plein de choses qui sont liées aussi à des questions très matérialistes dans notre société de ce que vivent les femmes. Et du coup elle dit aussi qu'est-ce que si on pense, parce que du coup elle travaille sur la question des corps à queue, et qu'est-ce que ça peut faire à la pensée féministe de penser en termes aqueuse. Et notamment, elle raconte cette histoire, c'est la question de la circulation, en fait, la question de la circulation des questions, et elle le replace, pour le dire, en fait, on n'est pas obligé de le laisser à l'essentialisme, mais c'est pour essayer de dépasser un peu ça. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Ça s'appelle l'hydroféminisme.
Du coup, vu qu'on a fait un peu aussi l'inventaire des luttes, on peut aussi parler de la lutte grenobloise contre ST Microelectronics, du coup, qui consomme des litres et des litres d'eau potable en nettoyant des puces électroniques qui sont Alors, qui sont destinés. Alors, en plus, il y a eu des. Puisqu'on a eu une conférence hier sur voilà, les questions autour de ST. Et du coup, apparemment, c'est un ingénieur qui a pris une photo un peu en mode taupe au sein de l'entreprise pour montrer ce qui. En quoi étaient utilisées et pourquoi étaient utilisées ces puces. Et notamment, c'était pour, par exemple, un ballon de rugby avec des puces pour savoir s'il y a faute ou pas, ou voilà, des trucs aussi inutiles qu'on peut penser. Et voilà, et d'ailleurs, au passage, il y a une amie qui vient de sortir une BD qui est incroyable, qui s'appelle Toujours Puce, aux éditions Monde à l'envers, et qui justement vulgarise et met en bande dessinée toutes les questions d'accaparement d'eau dans la région. Parce qu'il y a ST Microelectronics, mais il y a aussi Soitec, et en fait, c'est que le bassin grenoblois est un peu à la Louis Blanche, comme on disait, enfin un puits d'eau et qui est utilisé par ces entreprises. Donc voilà, ça c'était pour la petite lutte locale. Et sinon, pour ma question, c'était du coup lié à Ainsi viendra le temps du feu, qui est un livre vraiment incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est notamment sur les questions de l'utopie dans la dystopie. Et c'est que dans le livre, alors sans trop spoiler, c'est qu'il y a une utopie qui se constitue plutôt en dehors des murs. Et c'était pour savoir aussi, c'est que c'est peut-être une tendance dans la SF à avoir des utopies qui s'éloignent en fait du lieu dystopique, du lieu du fascisme, etc. Et est-ce que c'est possible aussi d'imaginer, est-ce que toi tu arrives aussi un peu à le faire, à imaginer de l'utopie même au sein du fascisme, au sein... ce que je ressens un peu aussi dans le livre, c'est vraiment un utopisme assez souterrain. Mais voilà, peut-être partir vers des utopies qui soient vraiment concrètement dans la ville, ce qui est quand même assez compliqué aussi à faire. Merci.
Merci pour ta question. Bah, quand j'écrivais Viendra le temps du feu, je n'avais pas conscience de faire de la littérature de l'imaginaire. Ce n'est pas vraiment de la science-fiction, parce qu'il n'y a pas de dimension science-fiction dedans. C'est même assez low-tech hein, comme roman. Mais... À un moment donné, t'as des serveurs de données qui brûlent, mais enfin des comment. Mais bon, bref. En fait, c'est hyper intéressant ta question parce que moi, ma porte d'entrée dans les luttes sociales, on va dire, c'est j'avais 24 ans et j'ai rejoint un collectif qui s'appelait les Panthères Roses à Paris, qui était un collectif de lutte contre l'homophobie, le sexisme et la transphobie. Et en fait. C'était une nébuleuse. On était liés avec ACT UP, on était liés avec d'autres collectifs en fait, plus ou moins connus, les Furieuses Fallopes que je pense que vous connaissez pas. Enfin, après on a créé un très gros collectif un peu nébuleux qui s'appelait les Tordus. On a fait en 2005 une marche alternative à la Pride parce qu'on trouvait que c'était trop commercial. Et tout ça c'était dans Paris en fait, parce que j'étais étudiante à Paris à ce moment-là. Et il y avait des copaines qui habitaient dans une maison occupée à vers Télégraphe, qui est un coin de Paris pas enfin c'est pas hyper touristique quoi, c'est pas hyper fréquenté on va dire. Moi mes espaces de il y avait eu ce festival les 72 heures dans un squat à la Générale en 2000 on s'appelait la c'était à Belleville en 2007 je crois. En fait, ces espaces-temps, c'était vraiment en ville. Donc moi, c'est dans ces lieux-là que je milite. Enfin, voilà. Mais alors, moi, je ne vivais pas en squat du tout, mais les gens avec qui je militais avaient monté ces lieux-là, en fait, faisaient vivre ces lieux-là. Donc c'est possible en ville, bien entendu, évidemment. Et c'est vrai que souvent, on va avoir l'envie de créer un ailleurs, mais ailleurs, géographiquement ailleurs. Et là, en ce moment, bon, du coup, je spoil mon prochain texte. Mais en gros, j'imagine des gens qui se mettent à casser le béton à Vaux-en-Velin. Bah, Vaux-en-Velin, avant, c'était une terre de marais, de pâturage. Voilà. Et c'est tellement bétonné maintenant. Puis il y a eu les usines, il y a eu l'industrie textile. Et du coup, ma passion en ce moment, c'est de discuter avec des copaines spécialisées en permaculture sur comment on fait pour cultiver sur une terre qui a été bétonnée et polluée pendant des décennies. Ou de parler avec des hydromorphologues sur est-ce qu'on peut réhabiliter un cours d'eau dans une zone aussi industrialisée. Voilà. Et moi, j'ai besoin de ça en ce moment, parce que sinon, je ne peux pas vivre là où je vis en étant bien. Voilà, donc je trouve ça hyper important, ce truc d'imaginer une utopie y compris en ville, y compris là où on habite, en fait.
Je rebondis, tu disais aussi en plus que dans le livre que tu es en train d'écrire, il y avait un ton caustique. Est-ce que l'humour permet aussi justement l'utopie et la lutte?
Si tu regardes, j'étais tombée sur un bouquin qui avait compilé des slogans et des articles écrits dans les zines des premières années du mouvement féministe, début des années 70. C'est tellement drôle! Les slogans étaient drôles, enfin, il y avait vraiment beaucoup d'humour, en fait. Et après, il y a eu cette idée que les féministes, c'était des filles qui étaient tout le temps contrariées, nanana, enfin... Tu vois, en fait, elles ont tellement d'humour, mais dès le début. Tu regardes ce bouquin, il faudrait que je retrouve la référence. Les tracts, les slogans, c'était plein d'humour. Je trouve que c'est hyper important. Et même au Panthère Rose, nos actions, à l'époque, c'était on allait faire des chorales dans les centres commerciaux pour... à la période de Noël pour lutter contre la surconsommation et le fait qu'on genre trop les garçons et les filles avec rayon filles en rose, rayon garçon en bleu. Bon, c'était 2004-2007 à l'époque. Mais oui, faire des actions sous forme de chorale, collage de stickers. Mais après, quand tu vois que les gens d'Extinction Rébellion vont faire 11 heures de garde à vue pour avoir collé des stickers pendant les JO dans le métro parisien... des stickers qui disaient les JO c'est pas jour, enfin tu vois, tu te dis mais en fait moi ça me fait flipper parce que je me dis en fait à l'époque quand j'ai commencé à militer, on est en 2004 donc il y a 20 ans, on faisait des actions que aujourd'hui je me dirais est-ce que vraiment j'y vais, tu vois, est-ce que vraiment je vais aller perturber une conférence à l'hôtel de ville de Paris pour dénoncer une conférence transphobe. Est-ce que je vais vraiment aller coller des stickers? Non, mais c'est délirant, en fait. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué de militer.
Ouais, on est passé à un autre niveau, quoi. C'est vraiment...
Nous, on se posait même pas la question, en fait. On écrivait des slogans, on écrivait des chansons. On se faisait toute la rame de la ligne 14 ou de la ligne 4 et on allait coller nos stickers sur toutes les pubs sexistes. Et puis après, on allait foutre le bordel au BHV, au rayon jouet. On chantait nos chansons et on faisait du théâtre invisible. C'était, enfin voilà, on militait mais on rigolait aussi quoi et on n'avait pas peur. Enfin aujourd'hui c'est tendu quand même.
Oui, il y a la peur qui revient.
Quelque part. Aussi à quelque chose que tu disais dès le début, c'est-à-dire si on compare. Un petit peu l'histoire de la Rise, à un moment donné, elle est anthropisée, on détériore son fonctionnement et elle ne peut plus rendre les mêmes services qu'elle rendrait précédemment et ça justifie au contraire de l'anthropiser encore plus pour la cacher, la masquer, en plus dans un phénomène où on fait de l'anthropomorphisme puisqu'on va la comparer à une sorcière et en même temps ça reste quelque chose qui est très local alors que aujourd'hui on arrive à un point de tension qui devient de plus en plus compliqué parce que les phénomènes ils sont globaux, on l'a entendu plusieurs fois, d'un côté la montagne se venge, on rêve que les glaciers se vengent à l'aide du changement climatique pour lutter contre les JO et on n'a plus forcément les réponses techniques qui permettent de monter la marche d'après. Et du coup, forcément, la réponse qu'on avait jusqu'à présent, il n'y a plus. Et la lutte elle-même, elle ne peut plus trouver la réponse que le système économique attend qu'elle apporte pour pouvoir justement continuer à exploiter les ressources comme on les exploitait jusqu'à présent. Et in fine, on arrive à un système politique qui se ferme complètement et où il n'y a plus de place dans la lutte et où un des enjeux, c'est peut-être au contraire de redévelopper des imaginaires où on serait capable de faire en sorte que la nature soit un élément actif de la lutte et pas juste un motif, une expression de la lutte et où quelque chose à domestiquer.
Oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais du coup, moi, je m'amuse avec ça dans le texte que j'écris en ce moment. C'est que les entités engueulent mon gueule. T'as une vision trop anthropocentrée, on va jamais s'en sortir. Enfin voilà, du coup, je fais dialoguer un cerveau humain et des entités aquatiques, et ça me permet de poser cette question de, en fait, on applique nos schémas de pensée à des entités du monde vivant qui ne fonctionnent pas du tout comme nous. Enfin, voilà.
On peut passer à la suite et te remercier encore mille fois, Wendy. Parce qu'on est vraiment très 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 heureuse et heureux de t'avoir reçu aujourd'hui et d'avoir discuté avec toi.
Merci pour l'invitation et merci pour vos questions, votre écoute.
Merci. Merci.